BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business. Nous sommes à la radio, nous sommes à la télé, nous sommes sur le web. Bonjour à vous qui nous écoutez également en podcast en dehors de France. Nous sommes avec vous pour encore une heure au programme l'immobilier. Nous allons réfléchir aux prix qui sont à la baisse. On va se demander si c'est le cas dans l'ensemble du territoire français ou est-ce que c'est un ajustement temporaire. Loïc Quentin de la FNAIM sera avec nous pour nous éclairer. Le question-réponse du jour portera sur l'âge. L'âge à partir duquel on doit commencer à préparer sa retraite. Et en fonction de cet âge, quel placement privilégié? Vous avez 35 ans, vous avez 45 ans, vous avez au-delà de 55 ans. Christian Fontaine de l'équipe du Revenu va vous donner ses bons conseils. Et puis pour finir, nous ferons le point sur le dollar roi, grand gagnant du marché d'échange, ce dollar depuis le début de l'année. Le dollar index a atteint la semaine passée son point haut depuis novembre. Au décryptage, l'équipe Deft Edge. Au programme, il y a vous. Vous êtes très nombreux à nous écrire depuis le début de l'émission. Le sujet sur les conseillers financiers vous a beaucoup fait réagir. Vous pouvez continuer à nous écrire. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. Nous partons du côté de Euronext rejoindre Antoine Larry-Gaudry. Cher Antoine, notre CAC 40 garde le cap depuis qu'on s'est parlé il y a une heure. On est bien au-dessus, verrouillé la claque au-dessus des 8000 points.
Oui, on avait tendance à craindre quand même une petite fragilisation de la tendance. Bah, il n'en est rien. Après un petit coup de pompe, un retour quasiment à l'équilibre. Là, on est bien reparti. Hein. Plus 0,36%. 8025 points pour le CAC 40. L'indice Euronext Tech Leaders, d'ailleurs, qui est sur une hausse de 0,68%. On sent que la tech est sur une grande fermeté. Plus 0,63% pour le DAX à Francfort. Plus 0,57% pour l'Eurostox 50. Une séance un petit peu molle, comme ça risque d'être le cas hein, pour cette fin de semaine avec le mégapont du 8 mai. On sent que les volumes ne sont pas forcément là, que la conviction n'est pas forcément là. Mais il y a plusieurs secteurs qui fonctionnent bien. Alors tout d'abord, celui des vins et spiritueux, hein, qui sont, semble-t-il, très très réactifs au propos d'Emmanuel Macron et de Xi Jinping, qui souhaitent quand même un petit peu apaiser les tensions commerciales entre l'Europe et la France en particulier, et puis bien sûr la Chine. On a Pernod Ricard, hein, qui gagne 2,8% à 145,20€. Rémy Cointreau, le spécialiste du cognac, qui signe la plus forte hausse du SBF 120, plus 8,6% à 97,60€. L'autre secteur en forme, c'est la chimie, avec de très bons résultats hein, ce matin, en provenance de Solvay, qui gagne 8,3% à 22,95€. Puis aussi d'Arkema, hein, qui est en hausse. Et puis, autre secteur en filigrane qui est bien bien orienté, c'est quand même le secteur bancaire. On a eu les résultats d'UniCredit en Italie et d'UBS en Suisse, et ils sont plutôt bons. Ça corrobore les bonnes indications qu'on a eues précédemment du côté des banques française qui montre quand même pas mal de résilience, puis aussi les bons résultats d'HSBC et de Santander. Et également, on a BNP Paribas qui prend 1,11%, 68,99. AXA plus 1,02, 32,54. Crédit Agricole plus 1% à 15,15. Et Société Générale plus 1,7% à 24,61. La seule déception du jour, c'est quand même Bouygues qui perd 3,7% après publication de ses chiffres d'activité. On est à 34,04. Puis à noter la forte baisse d'Atos, hein, toujours autant de volatilité et de spéculation. Le titre perd 3,8%. À 2€ actuellement. Le CAC plus 0,37, 8026 points et l'euro 1,0763. Lorraine.
Merci Antoine pour ce point sur le CAC 40. C'est l'heure de votre histoire.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Et votre histoire va porter sur Block, l'entreprise Block, B-L-O-C-K, pour ceux qui nous écoutent, la société du célèbre Jack Dorsey. Ce spécialiste des cryptos et du paiement numérique, on peut dire, arrive à se financer comme une grande société classique. Vous allez nous parler d'une levée de fonds monstrueuse, d'une émission, pardon, obligataire monstrueuse.
Exactement, parce que la plupart de ces sociétés précisément ont recours plutôt aux levées de fonds autour de table, mais Block est une société cotée, donc fondée effectivement par le célèbre Jack Dorsey, qui a fondé Twitter aussi, hein. C'était un des membres fondateurs du réseau social avant qu'il soit racheté par Elon Musk, et il a monté donc cette société qui est devenue assez rapidement, d'ailleurs grâce au savoir-faire en matière de technologie crypto, en matière de technologie de paiement électronique, une très très grande société spécialiste du secteur, hein. On connaît l'application Cash App, notamment, qui marche très très bien du côté des États-Unis. Dernièrement, ils ont publié de très très bons résultats. Et là, effectivement, ils ont décidé de frapper fort en empruntant 1,5 milliard de dollars, comme le ferait Saint-Gobain, Microsoft, un peu. Alors, attention, c'est pas encore non plus une émission obligataire classique, comme on peut le voir sur les marchés au quotidien, dans le domaine de l'obligataire d'entreprise. Ce sera une émission de titres de dette senior via un placement privé uniquement destiné à des investisseurs professionnels, donc des banques, des fonds d'investissement, des fonds de pension. La maturité, le rendement, alors tout ça reste quand même à déterminer précisément avec les investisseurs. Et cette dette va servir à du refinancement de dettes existantes, bien sûr, d'éventuelles acquisitions aussi, ou du CAPEX pour investir. Bref, comme les grosses capilles, hein, ou presque. À tel point que l'agence Fitch a même sorti une note autour de Block. Alors, pas possible de donner une note de crédit encore, les fameux triple A, les B, les D, les F, etc. Pour le moment, c'est de la dette privée, hein, donc on n'en est pas là. Mais l'agence note que fondamentalement, Block a largement de quoi capitaliser sur la croissance des secteurs du paiement en ligne et du service aux consommateurs. Donc, en matière de dynamique commerciale, ça se présente très bien. Et puis, la structure financière de Block lui paraît tout à fait solide. Des emprunts déjà effectués, qui sont sains, en obligations convertibles, et puis des lignes de crédit qui lui permettent amplement de se financer, mais alors au moins jusqu'en 2026. Donc un vrai support de cash solide également derrière. Le titre Block, avec toutes ses nouvelles, a gagné 5,8% clôture hier, et malgré pas mal de volatilité, il faut dire, ces derniers mois, il signe quand même un plus 25% sur un an qui semble être quand même très très convaincant.
Voilà, presque un triple A pour faire un plus 25 en un an. Merci beaucoup Antoine pour le décryptage de cette émission obligataire géante de l'entreprise de crypto et de paiement numérique Block, B-L-O-C-K. Merci cher Antoine, cette histoire est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Antoine, on vous retrouve dès demain dans Tout pour investir. Vous restez avec nous, c'est presque l'heure de parler immobilier. Marie Cœur de Roy et notre invité arrive.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'immobilier tous les jours dans Tout pour investir vers 11h15 pour ceux qui nous écoutent en direct, vers le milieu de l'émission pour ceux qui nous écoutent intégralement en podcast. Nous faisions un petit peu plus tôt dans l'émission un point sur la pérennité de votre conseiller bancaire. Est-ce que vous aurez toujours un conseiller bancaire dans le futur ? Vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir et je voudrais citer la réaction de Franck qui m'a écrit par email à direct@bfmbusiness.fr. Il nous écrit, on est passé d'une génération de conseillers épargne à une génération de conseillers crédit. Marie, ça vous parle ?
Alors oui, ça me parle un tout petit peu. Bon, je vais pas me faire que des amis. Alors je tiens à préciser quand même, parce que je sais que les banquiers m'aiment pas trop. Bon, moi j'adore.
Vous ne vous aimez pas encore ?
Non, alors j'adore ma banquière. Donc si elle nous écoute, elle est super. Mais c'est vrai que globalement sur le crédit immobilier, pendant longtemps, on a eu les meilleurs banquiers qui sont partis dans les réseaux de courtage pour devenir justement courtier en crédit immobilier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend, à l'heure de la digitalisation, etc., c'est vrai qu'on attend davantage de nos conseillers bancaires. Moi, autour de moi, alors c'est peut-être parce que je gère les questions immo et logement, mais autour de moi, j'ai quand même des histoires hallucinantes de banquiers qui sont au courant de peu de choses concernant le crédit immobilier, que ce soit les règles du Haut Conseil pour la stabilité financière qui ont lourdement et qui continuent lourdement de pénaliser le marché. Parfois, ils sont assez approximatifs sur le sujet parce qu'ils sont dans une forme de protection de la banque, mais sans vraiment mesurer l'impact, etc. Donc, ils font des raccourcis. Je vous épargne le sujet assurance de prêt, dont on pourrait reparler, avec des techniques quand même à la limite de la légalité de certains conseillers bancaires pour vous garder captif et vous empêcher de prendre votre assurance de prêt ailleurs. Bref, il y a quand même des sujets autour des banquiers, bien que, encore une fois, je refuse de me faire une généralité. Il y a des dérives dans toutes les banques, mais il y a des super banquiers aussi, et encore une fois, je salue la mienne.
Plus de digital, plus de conseils et plus d'humains. Voilà les demandes des clients par rapport aux services bancaires. Vous êtes banquier, vous êtes conseiller. Vous voulez partager avec nous les difficultés de votre métier ou justement comment vous pensez que vous faites bien votre métier. Vous avez aussi un droit de réponse. N'hésitez pas à réagir et à nous parler aussi de comment ce métier évolue et comment on fait pour accompagner les gens dans la gestion de leur argent dans un monde qui a besoin de plus de digital, plus de conseils et en même temps qui se polarise. Voilà, bon, c'était une introduction au sujet immobilier. Nous allons accueillir notre invité maintenant, c'est Loïc Quentin. Bonjour, cher Loïc.
Bonjour, Lorraine.
Vous êtes le président de la FNAIM, la FNAIM, comme je vous appelle depuis le début de l'émission. On va faire avec vous le point sur le marché immobilier. Il y a pas mal de choses à dire. On va quand même commencer par se dire quelque chose qui va pas trop mal, comme vous diriez, Marie, la baisse des prix.
Ouais, alors même la baisse des prix, j'ai quand même de vilains doutes. Donc je me retourne vers Loïc. Comment ça va globalement, transactions, prix? Est-ce que vraiment ça va mieux tel qu'on est en train de nous le dire depuis 2-3 mois là?
Eh bien, nous sommes dans les pronostics qu'on a établis à la fin décembre 2023, ou une conférence de presse de janvier. Rappelez-vous, on avait dit que après une année où c'était la baisse des volumes, hein, on a fini à 869 000 transactions.
Ce qui n'est dans l'absolu pas si terrible, pas si mais terrible qui est quand ça, même une lourde chute par rapport à la
chute
précédente.
Par rapport aux 1 200 000 ouais. précédemment. Et l'année 2024, elle est composée à la fois avec la poursuite de la baisse des volumes et le relais de la baisse des prix. Et c'est ce qui se passe.
On en est à
quand
combien,
on voit aujourd'hui à fin février, fin février 2024, 835 000 transactions sur une année lissée. On a pronostiqué à 800 000 en atterrissage à fin 2024 et nous y serons. Sur les prix, on avait pronostiqué 5 à 7%. On le voit sur les grandes villes, 5,8% à Nantes, 5% à Lyon, Bordeaux également. Donc là où les villes avaient le plus augmenté, là où les villes sont les plus denses et les plus fortes en population, eh bien, il est plus forte baisse de prix. Et ce qui est en train de se passer. Alors, France entière, nous, on a pronostiqué 5% de baisse sur l'année 2024. On va y être. Mais vous savez,
on était à combien, rappelez-nous, en 2023 ?
Le quoi ?
La baisse.
La baisse, elle était à 1,8%.
D'accord.
L'immobilier est un temps long. Alors maintenant, aujourd'hui, il faut analyser aussi l'évolution de l'immobilier par rapport à, je dirais, en euros constants. Un prix immobilier aujourd'hui est un prix en euros constants qu'il faut corriger de l'inflation. Quand tu as eu 14% d'inflation en 3 ans et demi, il faut les intégrer avec la correction des prix pour pouvoir reconstituer le pouvoir d'achat des ménages perdus.
Bon, on sait que tout ça, c'est quand même lié à l'évolution des taux d'intérêt.
Oui, bien sûr.
Justement, on nous a dit depuis le début de l'année, on le constate, il y a quand même une nette. Pardonnez-moi, j'ai pas coupé mon portable, donc je le dis à l'antenne parce que
je
s'entends.
Disputer, Marie.
Je vais me faire gronder. On le dit depuis le début de l'année, on a quand même une baisse des taux. Alors, elle est pas considérable, mais elle est quand même là. Bah, alors, attendez, au dernier pointage, on est autour de 3,8 mais... sur 20 ans. Je vous rappelle qu'en fin d'année dernière, en décembre, on devait être pas très loin de 4,5%. On a quand même.
On a perdu 0,2 points exactement.
On a quand même. Bon.
Et puis,
on a des banques qui sont quand même un peu plus souples pour l'octroi de crédit.
Ce n'est pas de nature suffisante à pouvoir redresser et redonner la dynamique au marché.
Mais alors, que ce ne soit pas de nature suffisante pour redonner
d'ailleurs,
la dynamique au marché.
Vous voulez un exemple sur la production de crédit? Allez, j'annonce les chiffres. Fin janvier 2024, 10 milliards d'euros de crédit distribués par rapport aux 25 milliards en période.
Je continue.
8,4 milliards fin février et 6,7 milliards fin mars. On va quand même pas parler d'une reprise d'une activité avec des volumes de crédit aussi bas.
Je conteste, Loïc. Vous citez les chiffres de la Banque de France. Moi, je suis désolée. Les chiffres de Crédit Logement CSA qui sont publiés ce matin, il y a 2 heures, c'est une hausse par rapport à décembre en volume de prêts accordés de plus de 70% par rapport à décembre.
Alors, les prêts accordés ou les prêts en montant?
Le nombre de prêts accordés. Mais pourquoi?
La Banque de France se trompe, je vais faire une requête.
Mais c'est pas que la Banque de France se trompe, c'est que la Banque de France est en décalage total. Elle mesure les crédits décaissés. Donc en réalité, les chiffres qu'elle nous donne là, c'est l'état du marché de décembre dernier. On va pas se mentir, il y a toujours un décalage de 3-4 mois.
Oui,
Mais bien sûr, pour mesurer en temps réel, vous pouvez pas me dire quand même que là, les volumes de crédit et même de visites.
Les volumes de crédit sont corrélés au volume des transactions.
Mais justement,
arrivé à 835 000 à fin février.
Mais vous voyez
Marie.
Pas de petits sursauts par rapport à la fin de l'année
mais
dernière.
Mais c'est normal parce que bien évidemment, lorsque les gens entendent que les prix commencent à baisser, lorsque le banquier recommence à mieux accueillir ses clients, lorsqu'il y a une baisse petit sensible, on ramène un frémissement, mais c'est finalement un rattrapage plutôt qu'un redémarrage.
On est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, il s'est passé quelque chose depuis 3-4 mois quand même.
Oui,
on ne peut pas le nier, je suis d'accord.
Heureusement,
vous ne m'entendrez pas dire que la crise du logement est derrière nous.
Oui, les acquéreurs reviennent et poussent la porte des cabinets immobiliers.
Et pour sortir de votre discussion un petit peu écosystémique, pour ceux et celles qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ont un projet d'achat ou un projet de vente là?
Aujourd'hui, bien, de toute façon, je crois que la négociation est entre les mains des acquéreurs. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les propositions, elles sont à moins 10, à moins 15% en départ. Elles se traduisent après à 5, 6% ou 7% en valeur. Mais les acquéreurs ont repris le chemin de la négociation par rapport à des vendeurs qui ne peuvent plus se permettre d'attendre plus longtemps. Donc voilà, c'est l'effet normal d'un cycle immobilier. On est en train de corriger des excès de prix et notamment impacté par la hausse des taux d'intérêt. La seule chose qu'on peut souhaiter, c'est que la BCE nous annonce une baisse des taux importante en juin. Mais voilà,
ça
on aura peut-être ces points.
Importante.
Bah, important, déjà, il faudrait renouer avec les taux antérieurs. Rappelons-nous, mars 2023, nous étions à 3,3% de taux d'intérêt. Aujourd'hui, on est à 3,82, 3,84. On est loin, il faudrait un demi-point sur les taux d'intérêt de baisse prononcés par la BCE. Je n'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, en plus, tout ça s'est soumis à, je dirais, à supposition, compte tenu que aujourd'hui, le climat géopolitique international ne nous permet pas d'anticiper et d'avoir une certitude sur la baisse des taux d'intérêt en juin, et compte tenu qu'aujourd'hui, la Fed a déclaré vouloir différer toute baisse de ses taux d'intérêt sur le marché.
Bon, j'ai voulu faire un peu d'optimisme quand même sur le marché de la transaction. En revanche, là, je vais avoir des difficultés à le faire sur le marché de la location.
Ah bah oui.
On en est où ? Parce qu'on a beaucoup parlé de la crise du marché locatif, surtout à la rentrée de septembre, parce que c'est toujours le moment où on en parle pour les étudiants, etc. On en est où aujourd'hui ? Est-ce qu'on a suffisamment d'investisseurs locatifs ? Est-ce qu'on n'a pas trop de demandes à la location ? Est-ce que les choses commencent un tout petit peu à se fluidifier ? Ou là, pour le coup, on est complètement tanké dans la même crise ?
Bah là, on est en train de s'enfoncer, de s'enliser dans une crise du marché locatif inédite. Et tout ça, pourquoi ? Parce que, d'abord, premièrement, l'investisseur n'est pas revenu sur le marché.
Pourquoi il ne revient pas, l'investisseur ?
Mais il ne revient pas, parce qu'aujourd'hui, avec des taux des rendements qui sont trop faibles à 4%, quand on a un taux de crédit à 4 points, est-ce qu'on va acheter de l'immobilier ? Donc aujourd'hui, si on a de liquidité, on les place sur les marchés financiers, on a les mêmes rendements aussi, mais je dirais tout le spectre fiscal de l'investissement locatif est un vrai repoussoir. Et puis aussi, les obligations de rénovation énergétique ne sont pas de nature à favoriser. Mmh. En plus, l'excès des normes sur le parc vide pousse beaucoup de propriétaires à aller vers le meublé. On voit l'explosion. Aujourd'hui, vous constatez, vous allez sur une grande ville, il y a plus de locations meublées que de locations vides, avec des locations meublées qui sont parfois 40% plus chères, et que ne justifie qu'une chose. Une location meublée, je le rappelle, c'est un logement vide, avec parfois 1500 euros de meubles IKEA ou les meubles de la grand-mère. Donc c'est pas de nature suffisante à pouvoir enregistrer une telle évolution de nos vies.
Mais alors justement, je vais complètement dans votre sens. J'ai dénoncé d'ailleurs la multiplication de ces beaux codes civils qui normalement ne sont destinés qu'à une résidence secondaire pour les locataires. Or, on les voit exploser. En fait, on n'a plus aujourd'hui de location qui répond à la réelle demande. Comment on fait pour justement redonner envie aux investisseurs d'investir dans du nu classique, by loi de 89 ?
Je crois que de toute façon, d'abord, premièrement, c'est entre les mains du législateur pour arriver à, je dirais, à redonner un cadrage, parce qu'il est essentiel que la location vide soit l'essentiel de ce marché pour accompagner la mobilité résidentielle des ménages français, parce qu'on ne peut pas avoir d'emploi s'il n'y a pas de mobilité, s'il n'y a pas de logement. C'est un critère fondamental. Alors le fiscal, pour pouvoir redonner envie aux gens de se positionner sur l'immobilier, nous on a fait une très belle proposition: investissez aujourd'hui, défiscalisez demain. Si vous voulez, je vous en dis deux mots.
Ah bah,
vous permettez à un Français qui achète dans l'immobilier, notamment, sous condition de porter son investissement pendant 10 ans, les 10 années suivantes, il sera exonéré d'impôt sur ses revenus locatifs. Et ils sont portés à 15 ans s'il achète dans le neuf ou s'il fait des travaux de rénovation énergétique. Un point important, stabilité du parc pendant 20 ans. Deuxièmement, on permet à un Français à l'âge de 55 ans de se projeter à la retraite, de dire à 65 ans, je pourrais avoir 600 euros ou 700 euros de revenus locatifs complémentaires, exonérés d'impôt sur les revenus locatifs, pendant mes 10 premières années, là où je vais toucher moins. Donc je fais l'effort d'épargne pendant les 10 dernières années d'activité et je retrouve un résultat pendant mes 10 premières années de retraite. Voilà un beau signal qui permet en plus de soulager le neuf, d'être un beau signal pour la rénovation énergétique et qui permet en plus un différé de prise en charge par l'État au titre de l'avantage fiscal consenti là où les recettes de l'État sont exemptes.
Ouais.
C'est un beau dispositif qui trouverait à s'appliquer et je pense, et là FNIM est tout à fait optimiste sur cette disposition et cette proposition.
Loïc, vous prêchez une convaincue là tout de suite sur ce plateau, déconvaincu, je pense. Le souci, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression, justement, vous parliez des problèmes d'ordre de recettes pour les finances publiques, mais même visiblement de dépenses, hein, puisqu'on a eu, justement, notre projet de loi logement abordable qui a été
attendez,
présenté.
Attendez, Marie, je voudrais rebondir sur l'idée de Loïc juste avant. Après, après, pardon de vous couper. Moi, j'adore votre proposition, parce qu'elle me parle en tant que, voilà,
je m'occupe
de finances personnes, etc.
Visible.
Mais est-ce que vous pensez que le niveau d'éducation financière des Français est suffisamment élevé pour que le gouvernement s'y intéresse ?
Bien, je crois, de toute façon, pour élever le niveau d'éducation financière des Français, il y a des professionnels, c'est notre rôle, notre quotidien. aussi bien les courtiers que les professionnels de l'immobilier. Mais je pense que c'est à l'État de bien comprendre la portée de ce dispositif et notamment l'impact qu'il peut avoir là où on ne peut plus mobiliser de finances aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation, 160 milliards de déficit budgétaire à l'année, on n'a rien à attendre. Je rencontre Bruno Le Maire au mois de juin, c'est un rendez-vous reporté, mais je lui expliquerai cette proposition et j'espère avoir gain de cause.
Bon, à vous refiler quand même la patate chaude, hein, parce que c'est une moindre recette fiscale pour les finances publiques dans 10 ans, donc je ne suis pas certaine qu'ils aillent dans votre...
Oui, il y a un différé de 10 ans, alors on souhaite quand même que dans les 10 ans, on va réussir à s'en sortir. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de recette, il n'y aura aucun argent pour l'immobilier. Dans tous les cas, vous l'avez vu, la loi de logement,
alors justement,
proposition de logement de Guillaume Kasbarian.
Proposition de loi, logement abordable, vous en pensez quoi?
Il n'y a aucune ressource. Eh bien, je pense que, je vous marquais, je veux dire, déception de ma part, totalement insuffisante. Il y a un an, c'était les travaux du CNR, on était encore en attente. Un an plus tard, il n'y a pas grand-chose. Oui, des dispositions, droit de préemption renforcé des communes que l'on connaît, il y a certaines dispositions, mais je dirais que ce n'est pas de nature suffisante. Le paragraphe sur le logement social n'était pas nécessaire. Je pense que même s'il y a, je dirais, une équité, une justice à remettre en ordre, je crois, pointer le doigt là-dessus n'était pas de nature suffisante. Moi, j'aurais fait une proposition à Guillaume Kasbarian, c'est que finalement, est-ce que le parc social a une vertu je dirais, à maintenir un actif, des actifs immobiliers en sa propre possession. C'est-à-dire, j'aurais mis, moi, plutôt une disposition visant à forcer les établissements sociaux de l'habitat, les ESH, sociétés HLM, à vendre une partie de leur parc pour le transférer à leurs occupants et notamment leur permettre de retrouver aussi l'investissement qu'ils avaient fait en tant que locataires dans le logement qu'ils ont loué pendant longtemps. Augmenter les quotas et même mettre une sanction s'ils ne la respectaient pas, comme on le fait en matière de communes.
Alors,
pour la loi
Sérieux. Là, quand même, je ne peux pas aller dans votre sens, Loïc, parce qu'en l'occurrence, il y a déjà la possibilité pour les bailleurs sociaux de vendre une partie de leur parc.
Pas suffisamment.
Le sujet, c'est encore faut-il que leurs locataires soient en mesure de l'acheter et souhaitent l'acheter. Oui. Et en l'occurrence, souvent, ce qu'ils veulent acheter, c'est pas ce qui est à vendre, parce que c'est ce qui rapporte le plus aussi aux bailleurs sociaux. Il leur faut quand même un équilibre financier. Or, on le rappelle, leurs ressources, leurs principales ressources, et là-dessus... le projet de loi insiste beaucoup, hein. Ça reste les loyers qu'ils perçoivent pour les bailleurs sociaux.
Marie, vous savez qu'un ESH est exonéré d'impôts société, a des prêts bonifiés sur 35 ans, est exonéré de taxes foncières pendant 15 ans, a une TVA généralisée à 5,5. Je pense quand même que les bailleurs sociaux ont un arsenal d'avantages fiscaux et financiers à leur disposition pour permettre d'avoir une production adaptée. Plus qui plus
si
est,
bénéficie
des obligations imposées par les maires de vendre à des prix inférieur au prix de revient. Et là, j'aurais souhaité du courage de l'État français en disant on va interdire aux communes de pratiquer la vente à perte imposée aux promoteurs au profit des bailleurs sociaux.
Ils sont ravis quand même.
Alors, à l'État de reprendre le financement du logement social.
Un débat à 1 minute 30 de la fin. Enfin, ils sont quand même très contents, les promoteurs, de trouver des bailleurs sociaux.
Ils sont contents que c'est une équité.
Même à moins cher, pour leur racheter des programmes qui trouvent
pas. Oui, mais c'est un dispositif qui inflate le prix de l'immobilier neuf, qui est contre l'intérêt des Français. Voilà, je crois, l'impôt palier, ça ne devrait pas exister dans ce pays.
On n'est pas d'accord, c'est terrible, c'est terrible. Bon, un mot quand même.
On en reparlera, Marie.
Avant de se dire au revoir, c'est quoi les prochains outils que vous souhaitez voir appliquer? Vous avez parlé d'un outil d'ordre fiscal. Est-ce qu'il n'y a pas plus simple, plus rapide, plus concret pour relancer la machine immobilière aujourd'hui?
Pour relancer la machine immobilière, c'est très très compliqué. De toute façon, avant toutes les crises précédentes, on avait encore quelque chose sous le pied de la part de l'État, où l'État pouvait intervenir. Notamment, mais on ne peut rien faire en disponibilité immédiate. On ne peut pas mobiliser les recettes de la France. Il n'y a plus de recettes budgétaires pour pouvoir accompagner le logement. C'est là toute la difficulté. Donc, il faut trouver des solutions originales, c'est la solution qu'on a préconisée. Et puis aussi, on a un enjeu de rénovation énergétique. On vient de déposer une mesure de simplification pour la vente en état futur de rénovation énergétique. La VEFRE, que vous aimez beaucoup.
La VEFRE, oui.
Et bien, on y croit aussi, y compris la portabilité des prêts. D'ailleurs, un député vient de faire une proposition de loi dans ce sens, député Renaissance. Et voilà, la FNIM est ravie d'avoir été entendue.
Merci beaucoup à tous les deux pour cette discussion. Et oui, ce sont des sujets complexes. Il y a des solutions aux problèmes. Voilà, maintenant la mise en place de ces solutions, le travail de conviction avant. Vous nous raconterez votre discussion avec Bruno Le Maire.
Avec plaisir.
Vous viendrez nous voir après. On souhaite beaucoup de succès à cette discussion pour débloquer ce marché de l'immobilier qui est vital pour notre pays et puis pour vous, pour nous, acteurs de l'économie. Particulier. Merci, chère Marie. Merci, cher Loïc Quentin, président de la FNIM.
Merci Lorraine.
D'avoir été avec nous. Séquence animée à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. On continue à s'occuper de vos finances personnelles, notamment de comment préparer votre retraite. On s'adresse à vous tous, quel que soit votre âge. On a des solutions par niveau. Avec Christian Fontaine du Revenu dans quelques minutes. Et puis on fera également le point sur le dollar. Dollar is king. On en parlera avec Deft Edge, l'équipe de Deft Edge en fin d'émission. A tout de suite après une rapide publicité.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On réfléchit à l'âge auquel il faut préparer sa retraite et en fonction de cet âge, comment on épargne? C'est l'objet du question-réponse avec vous, Christian Fontaine. Bonjour.
Bonjour.
Rebonjour, vous êtes directeur délégué de la rédaction du Revenu. On n'arrête pas de parler. Pendant la pub, on prépare les séquences. On a beaucoup de réactions d'auditeurs sur le sujet que nous traitions dans la partie actuelle de Tout pour investir tout à l'heure avec Jean-Louis Delloro de bfmbusiness.com. On se demandait si nos conseillers bancaires avaient de l'avenir. Vous êtes nombreux à réagir et je voudrais partager avec vous, Christian, une réaction d'auditeur puisque on va réfléchir à quel âge il faut, commencer à préparer sa retraite et finalement vers qui on se tourne pour préparer cette retraite. Est-ce que le conseiller bancaire ou la conseillère bancaire est la bonne personne? Christophe nous a écrit en réaction à notre audience, notre discussion. Mon père était cadre et conseiller crédit il y a 30 ans. J'ai quand même l'impression qu'il y avait bien plus de pouvoir de négociation et de décision qu'aujourd'hui, où les conseillers lisent leur ordinateur et tableur Excel, et si c'est vert, ils disent OK, si c'est rouge, ils disent non. Ils n'ont plus aucune valeur ajoutée, comme par le passé, et si on rajoute ça à la déshumanisation des banques, on peut se poser la question de leur utilité. On en revient à ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il faut plus d'humains, il faut plus de digital et plus de conseils pour refaire la cerise de nos conseillers banquiers.
Alors, c'est un peu tout ça, mais pour préparer sa retraite, j'aurais tendance à dire que le premier réflexe, c'est tout simplement de sortir son portable et de sortir ça, d'aller sur le site inforetraite.fr où vous allez avoir une estimation du montant de votre retraite en monnaie en sonnante et trébuchante, et ensuite de sortir la calculette pour voir un tout petit peu, essayer d'anticiper votre niveau de vie à la retraite et essayer de voir quels sont vos besoins en termes d'épargne. C'est un secret pour personne. Toutes les études du corps sur les retraites, le Conseil d'orientation des retraites qui est un peu, ce sont ces études qui sont les études de référence. Toutes les études aboutissent aux mêmes conclusions, à savoir que ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire en fait le ratio entre la première retraite et le dernier salaire d'activité ou le dernier revenu d'activité va baisser. Donc c'est un secret pour personne. Il faut se préoccuper de sa retraite. Il va falloir épargner. Il n'y a pas d'autre solution qu'épargner. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que il existe des solutions pour se doter d'un complément de revenu, et surtout l'effort n'est pas, forcément très important à fournir à partir du moment où vous commencez à épargner jeune pour votre retraite. Lorraine, j'ai une petite question, une petite colle. Allez-y. Pour vous. Si vous commencez à épargner à 25 ans pour votre retraite, d'après vous, si vous souhaitez, on va dire le million, on va être ambitieux, ouais, à 65 ans, combien faut-il épargner par mois à partir de l'âge de 25 ans?
À partir de 25 ans, je dirais en dessous de 300 euros.
Alors, vous avez raison, il suffit d'épargner, entre guillemets, 150 euros par mois, si vous les placez à 9%, pour y revenir, 9%, peu ou prou, c'est l'évolution des actions depuis 10 ans, donc c'est exactement les marchés, voire même moins que les actions mondes. Il faut quand même, pour atteindre ce fameux chiffre du million, partir avec 15 000 euros sur la table. Si vous partez sans mise de départ, vous n'aurez entre guillemets que 600 000 euros, un peu plus de 600 000 euros, 640 000 euros. Maintenant, si vous commencez à épargner, non pas à 25 ans, mais à 35 ans, combien faut-il épargner chaque mois pour atteindre le million à 65 ans?
Plus que 300 euros par mois.
Il faudra, légèrement plus, il faudra 500 euros. Oui. Maintenant, si vous commencez à épargner à 45 ans, il faudra 1500 euros. Vous voyez bien que l'élément clé de la préparation à la retraite, c'est l'anticipation. En fait, l'effet de levier sur le plan d'épargne, l'effet de levier le plus fort, il n'est pas fiscal. L'effet de levier le plus fort, c'est le temps. Pour profiter de ce que Einstein appelait la 7e ou la 8e merveille du monde, à savoir la capitalisation des intérêts. Vous placez 100 à 5%, à la fin de la première année, vous avez 105, et à la fin de la deuxième année, vous gagnez plus que 5, puisqu'en fait, les intérêts portent non pas sur 100, mais sur 100 plus les intérêts que vous avez gagnés la première année. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut commencer à épargner jeunes, alors peut-être pas forcément dès l'entrée dans la vie active, ça c'est très théorique.
Il faut quand même le pouvoir, voilà.
Il faut le pouvoir, mais plus vous commencerez jeune, et bien plus l'effort à fournir sera faible. N'oublions pas, et ensuite on range la calculette, mais si vous voulez par exemple 1000 euros d'épargne en plus chaque mois à la retraite, 1000 euros c'est pas non plus une somme énorme. Bon, il vous faut, le jour où vous partez à la retraite avec un taux de rendement moyen de votre épargne de 3%, il vous faut 400 000 euros quand même. Bon, avec, si vous voulez 2000 euros, il vous faut 800 000, c'est mathématique. Hein. Si vous voulez 3000 euros, il vous faut 1,2 million, sans puiser dans votre uniquement en consommant les intérêts sur la base de 3% par an. Voilà. Donc, tout ça pour dire que oui, il faut se préoccuper tôt de sa retraite, mais il y a des solutions possibles pour se doter d'un complément de revenu.
Bon, on va continuer à parler par catégorie d'âge, si ça vous va. Ces solutions, quand on est assez jeune, disons autour de 35 ans, quelles sont-elles ?
La solution quand on est jeune, le mot-clé, il y en a un seul, c'est acquisition de la résidence principale. Alors, certes, vous regardez sur Internet, il y a des tas de simulateurs, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut louer ? Bon, ça dépend uniquement donc alors des paramètres que vous rentrez, donc alors les taux, le taux du crédit, le taux de revalorisation des loyers, le taux de revalorisation, donc alors, bon. Donc le conseil de revenu, c'est pour préparer sa retraite d'acquérir sa résidence principale, tout simplement parce que le jour où vous partirez en retraite, si vous êtes salarié, peu ou prou vos revenus vont être divisés par deux et vous serez bien content à ce moment-là de ne pas devoir décaisser chaque mois le montant d'un loyer, d'autant que ce loyer avec le temps risque de progresser bien davantage que le montant de votre pension de retraite qui peu ou prou dans la durée ne sera pas forcément totalement indexé. Acquérir sa résidence principale, c'est aussi investir dans une niche fiscale à la française, on ne le répétera jamais assez. Lorsque vous revendez votre résidence principale, vous ne payez pas un euro ni d'impôts ni de prélèvements sociaux sur l'ensemble de vos gains, quel que soit le montant de ces gains, quelle que soit la durée détention du bien, quel que soit le montant donc, du prix de cession. C'est unique, ça n'existe pas ailleurs. Enfin, en tout cas, donc, en droit fiscal français, c'est unique. Donc autant profiter de cette niche fiscale. Oui, il faut faire l'acquisition de la résidence principale. Alors on pourrait dire, c'est un truc de vieux, l'immobilier. Bon. Aujourd'hui, la mode est à la location. On loue tout. On loue des voitures, on loue des vêtements, on loue des équipements. Voilà, la mode de l'usage. Lorsque vous regardez les dernières statistiques de l'INSEE, le taux de propriétaires chez les 20-30 ans, 25-35 et 30-40 ne cesse de progresser. Il a quasiment doublé en 10 ans. Donc, les jeunes, quand ils épargnent, ils épargnent pas pour leur vie jour, ils épargnent pour acheter leur logement. Ensuite, vers 40-45 ans, on commence à épargner pour la retraite. Mm-hmm. Et ensuite, donc, vers 55-60-65 ans, on épargne pour transmettre à ses enfants. Donc oui, il convient d'acquérir sa résidence principale. À minimum, investir dans la pierre, parce que tout le monde, notamment tous ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui vivent dans des grandes villes et qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un deux pièces ou un logement qui réponde à leurs besoins. Donc eux, l'essentiel, c'est d'investir dans la pierre, de mettre un pied dans la pierre pour ne pas être, je dirais, maintenu en dehors du marché si les prix repartent à la hausse.
Christian, je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Est-ce que justement, aujourd'hui, en 2024, en France, cette accession à la propriété, elle ne se fait peut-être plus dans la tranche 30-40, mais plutôt dans la tranche 40-50, parce que précisément, en fait, avec peut-être des gens qui sont plus indépendants, moins salariés, une précarisation du statut de CDI, on va dire, quelque part, on peut prévoir de devenir propriétaire, mais on va peut-être commencer par préparer sa retraite. Vous voyez ce que je veux dire ? Une sorte d'inversion dans la chronologie, dans la frise. Normalement, on achète sa maison, ensuite on prépare sa retraite. Est-ce que finalement, on ne peut pas maintenant envisager l'inverse? On commence dès le plus jeune âge à préparer sa retraite et ensuite, dans le bloc d'âge suivant, eh bien, on s'intéresse plus à son appartement ou à sa maison.
On peut tout envisager. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu les conditions de marché, vu le niveau des prix, vu les taux d'intérêt, il y a une partie donc, alors, des primo-accédants qui ne peuvent pas se permettre donc, alors, de rentrer sur le marché. Voilà. Mais,
ce qui ne leur empêche pas de faire l'effort d'épargne.
Voilà, ça c'est très important. Je pense qu'il y a deux points importants. Un, de faire un effort d'épargne. Et deux, peu ou prou quand même, si on ne rentre pas sur le marché de la résidence principale, il faut rentrer, donc il faut mettre un pied dans l'immobilier. Tout simplement parce que si les prix repartent à la hausse, vous allez être expulsé du marché. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas rentrer donc, alors, dans le marché. Donc ça, c'est un point clé. Dans les grandes villes, notamment à Paris, il y a beaucoup de cadres supérieurs, de cadres dirigeants qui, au début des années 2000, n'achetaient pas. Parce que vous pouvez voir qu'ils ont vendu leur résidence principale. Ils considéraient que c'était les prix prix étaient trop élevés, eh ben, peu ou prou, tous nos colocs sont passés par la case location et tous sont revenus nos colocs par la case achat. Il faut faire très attention. En fait, il faut investir dans un actif qui est important pour vous à long terme. Et je pense que la pierre est un actif important pour s'offrir un toit, est un actif important. Si on n'a pas les moyens d'acheter son logement, on investit dans du locatif, voire dans une résidence secondaire, qu'on pourra toujours revendre le moment venu pour acheter son logement. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, sur inverser un tout petit peu les stratégies par rapport aux stratégies très, très classiques, pourquoi pas, mais de toute façon, l'acquisition du logement, c'est une décision à la fois qui protège sa famille et puis c'est la première décision en matière de retraite.
Voilà, Christian Fontaine et ses recommandations. Bon, on a parlé de l'achat du logement. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde d'autre comme moyen de préparer sa retraite ?
Alors, si on progresse un tout petit peu en tranche d'âge, vers 45 ans, il faut penser à la diversification. Et je dirais que mon placement préféré à 45 ans pour préparer sa retraite, c'est le PEA, le plan d'épargne en action. Alors pourquoi ? Parce que, en fait...
Haute niche fiscale à la française que vous aimez beaucoup.
Voilà, c'est une niche fiscale à la française, vous avez raison. C'est une... En fait, c'est là, même encore plus précisément, c'est une enveloppe fiscale. Et dans cette enveloppe fiscale, pourquoi je l'aime ? Parce qu'on investit en bourse. Et seul le placement en action affiche sur le long terme un taux de rendement qui va vous permettre, entre guillemets, de vous enrichir avec votre épargne, même pas entre guillemets. Et donc, seul le placement en action est à la hauteur des enjeux. Hein ? Vous connaissez la règle des 72. La règle des 72, c'est que vous doublez votre capital d'un calcul égal à 72 divisé par le taux de rendement. Donc, si vous placez à 1%, il vous faut 72 ans pour doubler votre capital. Si vous placez en bourse, on va dire à 5%, il ne vous faut que 15 ans pour doubler votre capital. Alors, je sais bien, on dit... Et sur votre antenne, il y a des tas d'experts qui développent la théorie selon laquelle la bourse, c'est trop risqué. Si jamais les marchés s'effondrent, la veille du jour du départ à la retraite, que va-t-il se passer ? Aïe, aïe, aïe.
Bah, qui dit ça sur notre antenne ?
En fait, personne. Je ne donne pas de nom. Aïe, aïe, aïe. En fait, si vous placez 100 euros en bourse à 45 ans, à 65 ans, avec un taux de rendement de 7%, vous aurez 400 euros. Même si la bourse s'effondre, le jour de votre départ à la retraite, on va dire catastrophe, elle est divisée par deux. Donc, vous aurez encore 200 euros et vous aurez encore doublé votre capital. Ensuite, personne ne retire l'intégralité de son épargne donc alors, des marchés le jour de son départ à la retraite. Donc, alors, on peut, je dirais, en retirer une infime partie donc alors, pour compléter ses revenus. Mais en tout cas, on sort du marché progressivement. C'est autant de raisons pour lesquelles je pense que la bourse est le bon placement pour préparer sa retraite quand on a 45 ans. Pourquoi ensuite le PEA ? Parce qu'effectivement, c'est une enveloppe de capitalisation, c'est-à-dire en fait, on ne paye pas d'impôts ni de prélèvements sociaux. Quand vous encaissez des gains, vous ne payez ces fameux prélèvements sociaux, les impôts, vous êtes exonéré après 5 ans de détention, mais vous ne payez les prélèvements sociaux de 17,2 que le jour où vous retirez de l'argent. Dit autrement, ça veut dire que l'argent que vous devez aux organismes sociaux sur vos gains, eh ben, ils demeurent investis en bourse et ils continuent à faire des petits tant que vous ne retirez pas votre argent de votre plan d'épargne en action. Tout ça, c'est autant de bonnes raisons de placer son épargne retraite à 45 ans sur un plan d'épargne en action. Et puis en plus, vous diversifiez vos placements, puisqu'on là, on parle de placements financiers, de placements boursiers par rapport à l'immobilier et l'acquisition de la résidence principale dont on parlait tout à l'heure.
Christian, on est un petit peu pris par le temps, mais je voudrais vous soumettre une question de Geoffroy qui nous suit en direct et concerne. Salut. Il nous dit qu'il a 32 ans, il a une capacité d'épargne confortable de 1500 euros par mois. Il est propriétaire de sa résidence principale. Mmh. Il voudrait depuis des années investir en locatif, mais comme on le relève régulièrement dans notre émission Tout pour investir, c'est de plus en plus décourageant. Il envisage de mettre cette épargne, cette capacité d'épargne de 1500 euros par mois en bourse. Il hésite entre un PEA et un compte titre ordinaire. Qu'en pensez-vous ?
Je rajouterais même qu'il peut hésiter aussi avec un plan d'épargne retraite. J'aurais tendance à lui conseiller. Donc voilà trois enveloppes fiscales donc à des finalités, des modes de fonctionnement différents, tout à fait complémentaires. J'aurais tendance à lui dire 500 euros sur le PEA, 500 euros sur un compte titre ordinaire et 500 euros sur un plan d'épargne retraite. Il capitalisera donc alors en actions européennes dans le PEA. Le compte titre ordinaire, il l'utilisera donc alors par exemple pour les investissements à l'international et le PER, il profitera d'un avantage fiscal, d'un report d'imposition et il investira en bourse l'argent dû aux impôts. Comme ça, il va cumuler les avantages.
Voilà ce qu'on peut vous répondre, Geoffroy. Bon, on va finir avec les placements à privilégier quand on a plus que 55 ans. On va dire quand on commence à s'approcher de la retraite, enfin pour ceux qui prendront leur retraite vers 60 ans, 62, 64, 65, et ceux qui ne la prendront peut-être qu'à 70 ou jamais. Bref, comment on prépare la suite ?
Ben, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit avec le PER, le plan d'épargne retraite, c'est vraiment, bon, vous avez vu les dernières statistiques qui sont sorties, c'est un, donc ça fonctionne bien, alors ça fonctionne.
10 millions de Français, quand
même. Oui, mais là on parle du plan d'épargne retraite individuelle, pas collective, donc on est plutôt à un peu moins de 4 millions de Français, avec des encours relativement faibles, mais en fait c'est un bon produit. Puisque en fait, on le rappelle, hein, les sommes que vous versez sont déductibles de votre revenu imposable et pas de vos impôts, dans la limite de 10% de votre revenu imposable, ce qui signifie très concrètement que pour un cadre, vous pouvez verser 5, 6 000, 7, 8 000 euros par an sur ce plan d'épargne retraite. Et cette somme donc viendra en déduction de votre revenu imposable. Donc si vous êtes taxé à 30%, eh bien il y a 30% donc lors de ce versement qui se traduira en baisse d'impôt. Donc c'est intéressant. En plus, ce qui est intéressant, vous savez, au revenu, on est souvent assez contre, donc alors est très prudent avec tous les produits dits à gomme fiscale, et là ça en est un, mais celui-ci est plutôt de bonne facture et il est possible aujourd'hui avec des plans d'épargne retraite, notamment ceux qui sont récompensés par le revenu et distribués notamment sur internet, de placer son argent dans des produits qui sont peu chargés en frais, donc ça c'est très intéressant. Et puis encore, on le rappelle, c'est une enveloppe fiscale plus qu'un placement. Et au sein de cette enveloppe fiscale, vous pouvez choisir d'investir sur des supports plus ou moins risqués en fonction de votre profil. Le revenu, on recommande plutôt une répartition 60-40. C'est la répartition gagnante à long terme. 60% de fonds en euros et 40% investis en actions internationales, notamment en actions américaines. Donc, le plan d'épargne retraite. Alors, pourquoi donc, alors, dans cette tranche d'âge-là, vous pouvez me dire on peut commencer à investir dans un PER donc, alors, à 25 ans, vous avez entièrement raison. Sauf qu'en fait, peu ou prou, votre argent est bloqué. Donc, si vous commencez à investir à 50 ans, eh bien là, ce qu'on appelle le tunnel est relativement court, il est de 10 ou 15 ans, alors que si vous versez sur un PER comme votre auditeur tout à l'heure à 30 ans, bon ben, peu ou prou, l'argent sera bloqué pendant une trentaine d'années, c'est long, même s'il y a aussi là un avantage, et comme vous ne pouvez pas vous retirer votre argent,
vous le laissez tranquille
pour la retraite, c'est très bien. Et puis, l'autre avantage de commencer à verser relativement tard sur un PER, c'est que c'est vers 50, 55 ans, 60 ans qu'on paye le plus d'impôts. Et donc, c'est là où l'effet de levier fiscal est le plus important, puisque, encore une fois, l'économie d'impôt dépend de votre taux marginal d'imposition. Et souvent, les cas des professions libérales sont plutôt à 55, 60 ans, autour de 41%. Donc, pour 10 000 euros versés, 4 100 euros d'impôts en moins. Tandis que si vous commencez à 25 ans, ben, vous êtes plutôt dans la tranche à 11% ou à 30%. Donc, 10 000 euros versés, ça fait uniquement 1 100 euros ou 3 000 euros d'impôts. Pour moi.
Voilà, l'effet fiscal intéressant du PER pour les hauts revenus. On en parlait la semaine dernière avec un de nos conseillers en gestion de patrimoine qui nous disait, voilà, pour les hauts revenus, c'est vraiment intéressant. Voilà, pour plein de raisons que vous pouvez retrouver en podcast et en replay sur notre site web. Merci, cher Christian Fontaine, directeur délégué de la rédaction du Revenu, d'avoir été avec nous sur ce gros sujet. Voilà, à quel âge commencer à épargner pour la retraite et comment, en fonction de votre âge, on parle d'éducation financière tous les jours et toutes les semaines avec vous, cher Christian. Merci beaucoup pour votre collaboration et vos bons conseils. Vous retrouverez cette séquence en podcast et en replay sur notre site et notre application. Réécoutez les bons conseils de Christian. Vous restez avec nous, on va s'intéresser au dollar. Au dollar roi, vous le savez peut-être, c'est le grand gagnant du marché des changes, le dollar, depuis le début de l'année. On va parler du dollar index qui a gagné, qui a atteint la semaine passée son plus haut point depuis novembre. Décryptage à suivre. On va également parler du cacao et du cuivre. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement, surveiller ce que font les monnaies et les matières premières, c'est ce qu'on fait régulièrement avec vous, Olivier Le Chevalier. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le cofondateur de Deft Edge avec nous pour parler du dollar. Le dollar roi, le dollar grand gagnant du marché des changes. Racontez-nous.
Oui, bah en fait, actuellement, effectivement, le dollar est le gagnant des taux de change.
Et quand est-ce que le dollar n'est pas le gagnant ?
Bah, en fait, là, il joue très bien son coup parce que les taux d'intérêt, en tout cas, il va les conserver élevés, certainement jusqu'à la fin 2024 et début 2025. Donc, c'est pour ça que le dollar va être le grand gagnant, en fait, de cette élection. Et pour le coup, ça va poser problème parce que, du coup, l'euro a été indiqué que les taux euro allaient baisser, certainement en juin et en juillet. Et donc, c'est pour ça qu'il le laisse gagnant.
Bon, on imagine un dollar à combien ?
Je le vois à 1,05. C'est le pronostic de DeftEdge, parce que en fait, actuellement, au regard des éléments, on voit bien que les taux d'intérêt, eux, ils vont les conserver. L'euro va baisser ses taux d'intérêt, enfin l'Europe, juin et juillet, comme on le disait. Donc, en gros, ça va être mitigé, mais je le vois pas atteindre tout de suite, ou pas du moins, la parité.
Là, l'euro dollar est autour de 1,0759. Bon, vous imaginez un dollar à 1,05. Voilà, on se verra après la baisse des taux, si elle a lieu, pour faire le bilan. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, épargnants et particuliers investisseurs ?
Alors déjà, dans un premier temps, c'est sûr, par rapport au précédent invité, est en train de dire, et je suis d'accord avec lui sur le point qu'il faut investir peut-être plus sur les marchés américains, comme les taux vont être plus élevés, il va y avoir davantage de gains à aller chercher.
On parlait d'investissement très long terme, attention. Hein.
Exactement.
Préparer notre retraite avec Christian Fontaine.
Et tout à fait. Mais je suis assez d'accord avec lui d'aller investir sur des actions américaines davantage, parce que du coup, ça va être soutenu par le dollar et les taux qui vont être relativement forts. En tout cas, voilà, le seuil point de résistance est... j'imagine que c'est plus par rapport à l'or, en tout cas, où là, il y a quand même cette envie. C'est pour ça qu'il performe pas mal actuellement, où on voit que l'or a bien progressé. Et du coup, c'est un peu le seuil de résistance. Et là où c'est un peu la valeur refuge actuelle, en tout cas, que l'on note globalement.
L'or qui cote, alors on se parle autour de 2321 $. L'or sur lequel nous faisions un topo hier, d'ailleurs, avec Laurent Schwartz du comptoir national de l'or, à retrouver en podcast. L'or, le dollar, ça nous emmène à parler de la Chine. On le sait, la Banque centrale chinoise achète de l'or. Exactement. Les Chinois sont les plus gros consommateurs de l'or, ou en tout cas des gros consommateurs. Et la Chine qui aimerait bien faire ce qu'on appelle de la dédollarisation.
Effectivement, ça fait 17 mois consécutifs que la Chine achète de l'or. Du coup, elle est toujours acheteuse nette d'or chaque mois. Elle a accumulé 234 tonnes en fait sur l'année précédente en juin. Là, a priori, il y a eu encore à peu près, je ne sais pas ce que disait la banque internationale, qui avait encore eu 15 tonnes d'or d'achat sur mars.
C'est
toutes
beaucoup.
Banques confondues. Oui, c'est beaucoup, c'est assez énorme. Donc, on voit bien qu'il y a une envie en fait de se dédollariser de la part de la Chine. C'est clairement affiché. Puis aussi, si on revient en août 2023, il y avait une conférence qui avait été menée un peu par les BRICS pour dire ben voilà comment sortir un peu de l'hégémonie du dollar. Sauf qu'il n'y a pas réellement d'actions qui ont été prises à l'issue. Mais en tout cas, on voit bien que la Chine, oui, fait monter le prix de l'or et c'est la meilleure valeur refuge actuellement. Donc, ce qui pourrait s'opposer un peu, pour ça qu'on voit le dollar pas baisser, enfin aller se renforcer jusqu'au niveau des 1 à la parité.
Jusqu'à la parité. Donald Trump, hein, s'il était élu, qui envisage déjà des mesures pour empêcher les pays de se dédollariser. Ça vous inquiète ? Vous le surveillez ?
Effectivement, là, c'est-à-dire que je trouve qu'au niveau international, on a vraiment eu une scission depuis la guerre avec la Russie. On voit bien qu'il y a des pays comme la Chine, l'Iran, ont rejoint en fait la Russie, donc ils cotent le pétrole en CNY, etc. Et donc on voit
yuan,
bien
ouais.
En yuan, effectivement, et on voit bien que les États-Unis, Trump voudrait que la devise américaine reste la devise principale, et donc il va tout faire en fait pour essayer sur le plan international de maîtriser cette dédollarisation pour rester sur l'hégémonie pétrole et dollar à la fois.
Vous couvrez dans votre quotidien des éléments qui sont importants pour la vie des entreprises. Vous faites beaucoup d'international. Vous avez relevé cette semaine, et on a préparé cette émission en parlant un petit peu de cet événement, de l'Inde qui a accordé un agrément d'assurance maritime à 4 navires russes. Qu'est-ce que l'Inde et la Russie sont en train de fabriquer et qui nous concerne ultimement nous ? Vous pouvez nous raconter ça pour finir notre interview ?
En fait, on voit bien qu'on avait la Russie avec la guerre en Ukraine, où c'était un peu rassemblé. On voit bien que l'Inde vient en fait se rallier quand même à la Russie, vient soutenir. En fait, on voit bien la Chine, la Russie et l'Inde, en tout cas, font un peu, et l'Iran maintenant, font partie en fait d'un rassemblement, je dirais, un peu raccordé à la Russie et qui sont derrière. Donc, je trouve qu'ils jouent un double rôle aussi.
Puis une supply chain, une chaîne en tout cas, qui permet à la Russie de contourner les sanctions occidentales. C'est pour ça que la Russie se porte pas mal. Et l'Inde est un des maillons de cette chaîne.
Effectivement. Donc, effectivement, c'est l'Inde qui participe à aider la Russie, en fait, à contourner les contre, enfin, justement, toutes les règles et les sanctions américaines qui avaient été posées, l'Iran joue le même rôle, un peu la Chine, etc. Donc en tout cas, c'est pour ça que la Chine est quand même en France pour nouer ses relations diplomatiques avec la France.
Voilà. C'est un peu le fil rouge de notre émission depuis 10 heures, de dire que la géopolitique est un petit peu sous-estimée. Sous-analysé par beaucoup d'acteurs économiques et peut-être par vous aussi, investisseurs particuliers, des choses complexes que vous monitorez chez Deft Edge. Un mot pour finir, on a parlé du cours du cuivre qui est toujours autour des 10 000 dollars, mais le cacao, lui, qui a baissé. On n'a fait que parler du cacao quand il flambait, et là, on est en baisse rapidement, Olivier.
Alors oui, enfin, y a une baisse qui a été rapide. Là, on ne s'est pas vraiment expliqué pourquoi, parce qu'en fait, il y a toujours une pression sur les producteurs au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Disons, on ne sait pas si la récolte va être super bonne, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un seuil de résistance, et on se dit peut-être qu'il y a une correction un peu technique, où ça a été, en fait, effectivement, les marchés qui sont venus prendre leur profit. En tout cas, je pense que ce n'est pas fini. D'autres disent effectivement ça risque de baisser encore un peu. Voilà, je le vois pas immédiatement, mais risque d'avoir un cacao quand même relativement fort, comme toutes les matières premières de notre première nécessité, enfin, je dirais.
Olivier, le chevalier de Deft Edge, avec nous dans Tout pour investir, pour faire le point sur les matières premières. Est-ce que ça signifie pour nous, ultimement, investisseurs et acteurs de l'économie particulier? C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour la préparation. C'est le moment de passer le relais à la suite de la grille. Sandra Gandon nous a rejoint. Bonjour Sandra.
Bonjour Lorraine.
Quel est le programme d'avec vous aujourd'hui?
On va parler de menaces cyber, dont on va vous aider aussi à lancer votre entreprise, les risques de ChatGPT quand on l'utilise au boulot, ou encore cette question du jour, l'organisation sans hiérarchie peut-elle exister au bureau. Vous nous posez aussi toutes vos questions à vous à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr.
Nous sommes très organisés et en équipe, pas avec beaucoup de hiérarchie, avec Amaury Tonquédec qui est là. Bonjour Amaury. Aux manettes de BFM Crypto, le club, quel est le programme de votre émission à 15h?
Le milliard de transactions sur le Bitcoin qui vient d'être passé, les stablecoins, la mode des stablecoins, tout le monde s'y met, on verra pourquoi. Et puis la self-custody, le fait de détenir soi-même ses cryptos, pourquoi ça pourrait être mis à mal par la réglementation.
Jean-Marc Daniel nous parlait de Crassus qui s'est fait assassiner en se faisant couler de l'or dans la bouche parce qu'il était trop avare ou trop amoureux de son argent. On se disait que ce serait probablement aussi douloureux de mourir avec une clé, une wallet Ledger dans la gorge.
Je pense que c'est pas très agréable.
Le Bitcoin qui se négocie autour de 64 258 dollars. On est un petit peu en retard, je vous présente mes excuses. Bonne écoute sur le BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.